Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'invite les plus petits à trouver leur classe. Et je vous invite les autres à prendre vos Bibles. J'espère que vous avez une Bible. Et à revenir en Exode chapitre 3. Alors, je sais que ça fait depuis que le début du mois de décembre que nous n'avons pas été dans ce livre. Mais nous allons revenir et nous allons regarder vraiment une des cimes de la parole de Dieu, un des hauts lieux, un des passages clés de toute la révélation de Dieu. Parce que dans le texte d'aujourd'hui, Dieu s'appelle lui-même, il nous donne son nom, il nous révèle son identité. Mais je vais commencer au chapitre 3, mais au verset 1, pour que nous puissions reprendre un peu le contexte. Écoutons donc la parole de Dieu. Exode 3 dit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Et Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse. Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoriens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Verset 9, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Et Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Amen. La parole de Dieu. Quelqu'un a dit, je ne l'ai pas ici, je pensais que j'avais cité, Mais la chose la plus importante à propos d'une personne est ce qui lui vient à l'esprit lorsqu'elle pense à Dieu. Ok, je vais le relire, écoutez bien. La chose la plus importante à propos d'une personne, c'est ce qui lui vient à l'esprit lorsqu'elle pense à Dieu. On peut avoir des opinions diverses et différentes sur plein de choses. On pourrait commencer à débattre notre repas préféré, notre marque de voiture préférée, si c'est mieux de vivre dans le nord de la France ou dans le sud, quelle est la langue la plus belle. On pourrait parler des questions politiques, sociales, etc. Mais j'espère que vous êtes d'accord avec moi que la chose la plus importante, l'opinion la plus importante que nous puissions avoir sur quelque chose, c'est ce que nous pensons de Dieu. Qui est Dieu à votre pensée? Que pensez-vous de Dieu? Qu'est-ce que Dieu? C'est une des questions que nous avons, hein, c'est la question numéro 4. Et on peut le dire ensemble, je le mets ici pour que vous puissiez le dire avec moi. Dieu est esprit, infini, éternel et immuable dans son être, sa sagesse, sa puissance, sa sainteté, sa justice, sa bonté et sa vérité. Voilà. Dieu est esprit. Il y a trois niveaux de définition ici. La première chose, c'est l'essence de Dieu. Dieu n'a pas un corps comme nous. Dieu, dans son essence, il est esprit. Il ne fait pas partie de la création de l'univers. Il est le créateur. Et puis, nous avons trois grandes perfections de Dieu. Dieu est infini. Dieu est et éternel, et Dieu est immuable. C'est les grandes perfections de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voyons dans cette première chose que Dieu dit de lui-même. Il s'appelle « Je suis ». Infini, éternel et immuable. Et puis, toutes ces caractéristiques sont vraies, en fait, pour toutes ses perfections. D'accord? Donc, on peut parler de sa sagesse. Dieu est infini dans sa sagesse. Il est éternel dans sa sagesse et il est immuable dans sa sagesse. Mais on pourrait prendre aussi sa justice. Dieu est infini dans sa justice, éternel dans sa justice, immuable dans sa justice. C'est la même chose pour sa bonté. Et donc, ça peut, je vous encourage vraiment à mémoriser cette réponse. Et le penser dans ces trois catégories, l'essence de Dieu, les grandes, trois grandes perfections de Dieu, et puis les différentes caractéristiques, et on pourrait en fait en ajouter d'autres caractéristiques à cette liste. Alors, vous avez peut-être plusieurs noms. Prénoms, il y en a qui ont plusieurs même prénoms. Mais je suis presque sûr que vous n'avez pas choisi aucun de vos noms. Hein, ça arrive, mais en fait c'est très rare. Mais Dieu, au contraire, a choisi son nom. Il a choisi son nom. Notez là le verset 13 d'Exode 3. Quel est ce nom? Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, ça c'est la question ici, ça c'est le sujet maintenant, quel est le nom de Dieu? Que leur répondrai-je? Et Dieu ne dit pas, c'est une mauvaise question, Dieu ne dit pas, reviens un autre jour, je te dirai. Dieu tout de suite répond à sa question en disant, je suis. Hein? Nous avons, pour expliquer, nous avons ces mots, Dieu dit à Moïse, mais imaginez, hein, la discussion. Moïse dit, s'il me demande quel est son nom, que répondrai-je? Je suis celui qui suit. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Voyez là au verset 14, Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Et là à la fin du verset 15, « Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération ». Donc c'est une déclaration que Dieu fait de lui-même. Elle fait partie de son auto-identification. Alors, si quelqu'un nous disait cela, hein, quelqu'un arrive, un visiteur, et par intérêt, on leur demande, normalement on ne demande pas leur âge, hein, c'est pas très poli, mais on a le droit de leur demander leur nom. Imaginez que la personne dit, je suis celui qui suis. Ça se crée, je pense. Et on penserait que la personne est délibérément évasif, ou peut-être même qu'elle plaisante avec nous. Mais Dieu, il faut savoir que Dieu ici, il ne cache pas d'informations. Dieu n'est pas en train d'essayer d'être vague. Il s'identifie lui-même. C'est une révélation que nous avons ici. Il veut que Moïse comprenne qui il est. Et il dit donc, je suis. Ah, je l'avais avant, hein. Dieu est, ça c'est le premier point, Dieu est, je suis. Il est, je suis. C'est ce qu'il dit là, au verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et si on se demande, mais qu'est-ce que cela veut dire? La directive, dans la deuxième phrase du verset 14, nous indique ce que nous devons extraire de cette première déclaration. Alors regardez verset 14, la deuxième phrase, et il ajouta, ça va nous aider à comprendre ce que Dieu veut dire quand il dit « Je suis celui qui suis ». C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, « Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Alors ce mot traduit « Je suis », c'est le simple verbe « être » qui est utilisé au passé, au présent et au futur. Et comme il utilise ici à la première personne du présent, nous savons qu'il parle de son être. Hein? Il parle de son existence. C'est donc celui qui est ou qui existe qui vous envoie envers eux. C'est pas comme les idoles qui n'ont pas d'existence en eux-mêmes. Il est celui qui a une existence en lui-même. Moi, je peux dire, je suis né. Et même si on ne veut pas dire notre âge, nous avons un âge. Nous avons un certain âge même, certains parmi nous. Mais Dieu peut dire, je suis. Il a cette existence. Et puis, il donne ensuite encore plus d'informations, là, au verset 15. Il y a un mot que je veux que vous souligniez pour le lier avec le mot « je suis » au verset 14. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. » Et quel est le terme que Dieu donne à Moïse ici? L'Éternel. Notez ce mot. L'Éternel, le Dieu de nos pères. Alors, réfléchissez bien sûr avec moi, quelque chose j'espère qui va vous aider dans votre lecture de l'Ancien Testament, parce que ce mot apparaît, je crois, plus de 3000 fois. Le mot éternel. Lorsque les manuscrits hébreux ont été rédigés, et dimanche prochain dans l'après-midi, nous aurons une professeure qui va nous parler des langues bibliques. On lisait d'abord hein, de droite à gauche, pas comme en français, et la langue écrite en tout cas ne comportait pas de voyelles. Okay, donc imaginez le français sans voyelles, que des consonnes ou un radical, ils appellent ça. Et c'est à environ 500 ans après Jésus-Christ que des érudits hébreux ont inséré des points de voyelles dans le texte. Donc, vous avez ici le texte original qui est en noir, en fait, c'est que des consonnes. Mais on a ajouté, pour pas changer le texte, vous voyez, pour, même pas pour l'élargir, on va mettre les points de consonne au-dessus, en dessous, différentes formes, triangle, ligne, tiret, etc., pour nous aider à prononcer ces mots hébreux. Et donc un texte hébreu aujourd'hui va avoir le texte ainsi que des points voyelles. Alors, le mot que nous avons là au verset 15, traduit éternel, comporte quatre consonnes, mais pas de voyelles. Et vous savez déjà, hein, la plupart d'entre vous, quelles sont les quatre consonnes. Ah, oh, ça a changé de... Mais c'est les lettres, c'est dur à lire là. YH, WH. Hein? YH, WH. Et donc, 500 ans après Jésus-Christ, ces érudits hébreux ont pris des voyelles d'un autre mot. Je dis, comment est-ce qu'on va prononcer ce mot? Et ils ont pris les voyelles d'un mot hébreu, qui est le mot Adonai. Okay. Adonai, qui veut dire Seigneur. C'est le mot pour Seigneur. Je dois ajouter une chose ici. Vous savez que le troisième commandement que Dieu a donné, c'est « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. » Et par respect pour ce commandement, en fait, ils ont tordu le sens, parce que ailleurs, Dieu dit « Vous prendrez mon nom. » Mais ils ont refusé même de dire le mot. Encore aujourd'hui, un juif qui est religieux ne va jamais dire le mot « Jéhovah » ou « Yahvé ». Quand ils le lisent, et je parlais avec quelqu'un qui a pris des cours en hébreu, en Israël, même quand la prof lit, chaque fois qu'elle arrive à ce mot, elle dit Adonai. Voilà. Parce qu'ils veulent pas dire ce mot sacré de Dieu. Donc, il y a différentes idées, mais probablement pour ça, pour rappeler aux gens qu'il faut dire Adonai au lieu de dire le mot de Dieu, ce qu'ils ont fait, ils ont ajouté les voyelles de ce mot aux consonnes de Yahvé, et qu'est-ce que ça donne? Ça donne un mot comme Yahovah, ou historiquement on a dit Jéhovah, surtout en français. Donc la prononciation en fait de Jéhovah vient de cela. C'est les consonnes de ce mot traduit éternel avec les voyelles du mot pour Seigneur Adonai. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certaines traductions utilisent encore le mot Seigneur pour traduire ce mot. Et en fait, les premières traductions françaises, moi j'ai trouvé ça intéressant au point de vue historique, utilisaient le mot Seigneur pour traduire ce mot. Comme d'ailleurs, si vous lisez une Bible anglaise, toutes les traductions anglaises vont utiliser le mot Seigneur, Lord, L-O-R-D, mais elles vont le mettre tout en majuscule pour signaler au lecteur que c'est différent que l'autre mot pour Seigneur qui n'est pas tout en majuscule. Et au début, c'était comme ça aussi en français. Mais je crois que nos traductions françaises sont bien supérieures aux traductions anglaises dans ce domaine précis. La traduction pour ce nom de Dieu dans nos Bibles en français donne presque tout, il y a quelques exceptions, il donne le mot éternel. Éternel. Et ceci est grâce à un homme qui s'appelle Pierre Roubert, dit Olivetan, un traducteur de la Bible. Il est né en 1506 à Noyon, donc à peu près à 1h30 ici vers le nord. Il est le cousin de Jean Calvin. Il étudie à Strasbourg et puis se lance dans l'étude des langues de la Bible. Et en 1532, il y a un synode dans la vallée vaudoise du Piémont, ce qui est aujourd'hui en Italie. Et les Vaudois, en fait, avaient gardé l'évangile pendant plusieurs siècles, et ils étaient persécutés par l'Église catholique, et il y a eu un rassemblement avec les chrétiens venus de Genève, et puis les Vaudois ici au nord de l'Italie, et Guillaume Farel, qui était là, les convainc de financer une édition latine et française de la Bible. Et c'est Olivetan qui va être choisi pour faire cette traduction. Et c'est la première fois qu'une traduction française prend pour départ les textes originaux, c'est-à-dire le grec et l'hébreu. Avant ça, on traduisait tout depuis le latin. Et donc lui, Olivetan, il va prendre 2 ans pour traduire. Un homme, il a dû travailler nuit et jour pour le faire. Et la Bible d'Olivetan est appelée la Bible des martyrs parce que c'était la Bible des Vaudois qui ont subi en fait de nombreuses persécutions. Mais c'est en 1537 que dans une révision des psaumes, que pour la première fois, il va employer le terme éternel pour traduire ce mot hébreu. Dans la première édition, il avait utilisé le mot Seigneur. Et c'est aussi lui qui, pour la première fois, va insérer en fait des numéros pour chaque verset. Verset 1, verset 2, verset 3. Quelque chose que nous avons encore dans nos Bibles. Donc voici ce qu'il faut retenir, ok, de tout cela. Peut-être un peu compliqué, mais ces 4 consonnes, Y, H, W, H, ok, sont les lettres du mot, en fait, je suis. C'est ça qui est important à retenir. Ce sont les lettres du mot « je suis », mais sous une forme différente. Ok ? Un quiz ici de grammaire. « Je suis », c'est la troisième personne... Non, pardon. « Je suis », c'est la première personne du singulier. On est d'accord ? Si on va changer « je suis » dans la troisième personne du singulier, on dirait, en français, on dirait « il » ou « elle » ou « on » et. Voilà. C'est la même chose en hébreu. Il y a le verbe « je suis » et puis il y a le même verbe « il est ».« Il est ». Et si on part du principe que c'est le sens du mot, en fait, on va prendre les voyelles de ce verbe « il est », on va les insérer, et dans ces mêmes consonnes, et nous aurons la prononciation « Yahweh » ou, comme on dit en français, « Yahvé ». Donc, 2 façons de prononcer, en fait, le même mot hébreu. « Jéhovah » ou « Yahvé ». Mais le plus correct, historiquement, si on voulait, ce serait de dire, les deux hein, sont acceptables, mais le plus correct, ce serait de dire Yahvé. Alors, reprenons maintenant le texte. Regardez verset 14. Où Dieu dit, je suis. Ok? Et puis, vous pouvez entourer ces deux mots, je suis. Et puis maintenant, verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, il est. Hein, vous pouvez entourer le mot éternel. Si vous avez la place dans la marge, j'encourage à marquer ces deux mots, il est. Vous voyez le lien entre ces deux mots. Je suis, et Dieu prend le même verbe, mais il le met au troisième personne du singulier. Quand toi tu vas parler de moi, toi tu diras, je suis m'a envoyé vers vous, mais aussi voici mon nom que vous allez utiliser, il est. Il est. Traduit dans nos Bibles comme éternel. Ça, c'est notre Dieu. Dieu est, donc, je suis, et Dieu est, il est, ou éternel. Et replacez ça un peu, juste pour un moment, dans son contexte historique et religieux. Que vénéraient les Juifs à cette époque où Moïse parle avec Dieu? On pourrait penser que tous les Juifs croyaient dans le seul vrai Dieu, adoraient depuis 400 ans en Égypte le seul vrai Dieu, mais en fait, c'est tout le contraire. Étienne, quand il parle en Actes chapitre 17, son dernier serment avant sa mort, il dit, je vais vous le lire, Actes 7, 42, 43, « Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Raphan. Ces images, vous les avez faites pour les adorer. » Il parle de leur tente dans le désert. Il dit, vous avez apporté d'Égypte, en fait, vos idoles avec vous. Donc, au milieu d'une nation polythéiste dans laquelle ils vivaient, ce qu'était l'Égypte, lorsque Moïse vient et leur parle de Dieu, ils allaient demander, mais quel est son nom? Pourquoi quel est son nom? Parce que l'Égypte avait plein de dieux. À l'école, vous avez appris certains de ces dieux, et ils ont tous des noms, et chacun de ces dieux sont liés à des puissances, ou à des événements, ou à des lieux. Et pour se contraster de tous ces dieux d'Égypte, verset 15, là, Dieu veut qu'il soit sûr de savoir que lui, il fait pas partie de ces dieux. Lui, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il n'y a rien de nouveau ici. C'est pas un nouveau Dieu. Ça remonte à des centaines d'années. Et donc, ce nom fait référence à l'être de Dieu. Moïse suppose ici qu'ils reconnaîtront que, effectivement, ce Dieu, c'est le Dieu des patriarches, d'Abraham, Isaac, etc. Et comment est-ce que Abraham et les autres ont connu Dieu? Et je veux que vous tourniez dans quelques passages en Genèse. C'est pas très dur de trouver Genèse, hein, si vous êtes en Exode. Reculez quelques pages, Genèse chapitre 4. Et notez la fin du chapitre 4, verset 24. Cain sera vengé 7 fois, Lémèque 70 fois, verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, elle l'appela du nom de Seth, car elle dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Cain a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de Il est, le nom de Yahvé, le nom de l'Éternel. Il s'agit ici de la première référence à des personnes qui invoquent Dieu par ce nom. Mais on va le trouver à plus de 160 reprises dans le livre de Genèse, et souvent dans la bouche des patriarches eux-mêmes. Voici donc quelques exemples. Trouvez un chapitre 15. Et verset 7, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel. Hein? Si on lisait ça littéralement, on pourrait dire, je suis, il est. Je suis, il est. Qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Et Abraham accepte ce nom. Regardez verset 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, ou Adonai Yahvé, Seigneur il est. À quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Regardez chapitre 22 et verset 14. Ici l'histoire de Abraham qui doit sacrifier son fils Isaac, et à la dernière minute, Dieu intervient et il lui donne un sacrifice à la place d'Isaac. Et verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré, où l'Éternel pourvoira. Il est pourvoira. Et c'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, à la montagne de Yahvé, il sera pourvu. Donc c'est clair qu'Abraham, le père de tous ceux qui ont la foi en Dieu, hein, il est là, le père de nous tous qui avons foi en Dieu, il adorait Dieu en tant que Yahvé, en tant que l'Éternel. Et puis, trouvez le chapitre 28. Maintenant, on est à Jacob, l'héritier de l'alliance d'Abraham. Genèse 28, verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Ça, c'est l'échelle, là, qui montait au ciel. Et l'Éternel dit, je suis l'Éternel. Encore, je suis Ilé. Je suis Yahvé. Le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Donc, quand il demande à Moïse, hein, qui t'envoie, Moïse doit leur dire que c'est le même Dieu qui s'est révélé à leur père des siècles auparavant. Et maintenant, il y a quelque chose qu'on doit visiter pour pas que, lorsque vous lisez en Exode, vous soyez troublés. D'accord? C'est important. C'est en Exode chapitre 6. Est-ce que vous pouvez trouver Exode 6? C'est un passage qui porte à confusion, et c'est pour ça qu'il faut en parler. Exode 6, verset 2, Dieu parla encore à Moïse, il dit, « Je suis l'Éternel, je suis Yahvé. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. » En hébreu, c'est El Shaddai, ici. « Mais sous mon nom, l'Éternel, sous mon nom, Yahvé, il est... Je n'ai pas été reconnu par eux. » Alors, ça vous pose problème? D'abord, nous savons que la parole de Dieu est sans erreur, et donc il y a certainement une explication à donner à ce verset. Mais on va, une chose est sûre, on va complètement perdre le sens si on pense que, ici, que Jacob ne connaissait pas Yahvé, qu'il savait même pas que c'était son nom, qu'Abraham ignorait que le Dieu créateur s'appelait l'Éternel, parce que nous avons ces évidences en Genèse. Et donc, il y a deux explications possibles. Beaucoup de commentateurs aujourd'hui disent que la structure de la phrase en hébreu suggère que c'est une question ici. D'accord? Donc, regardez-le, je vais lire comme une question. Dieu dit, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. » Mais n'ai-je pas été connu d'eux par mon nom d'Éternel? Hein? Il est en train de dire, écoute, j'ai déjà été connu comme cela à ces enfants d'Israël. Et la structure de la phrase permette que ce soit une question. Mais que ce soit ici une question ou non, nous savons que la réponse est oui. Oui, en fait, hein, si on pose la question, n'ai-je pas été connu d'eux par mon nom éternel? Oui, ils connaissaient Dieu par le nom de Yahvé. Mais l'explication plus connue, et historique même, c'est que Dieu ne s'est pas fait connaître dans la plénitude de son alliance, comme il va maintenant se faire connaître à Moïse et aux enfants d'Israël. Et donc, il est en train de dire, par cette deuxième explication, que Abraham et Jacob le connaissaient par ce nom, mais pas comme l'accomplisseur de toutes ces promesses qui leur a faites. Ils avaient le nom, ça c'est la garantie, mais ils ne connaissaient pas comme l'activité de cette alliance. Hein? Comme si je donne, je sais pas comme nom, celui qui va pouvoir pour vous. Ok. Ça, c'est un titre que j'ai, celui qui va pourvoir. Mais après que j'ai pourvu à vos besoins, vous pouvez dire, ah, maintenant, je le connais comme celui qui pourvoit. Avant, je ne le connaissais pas comme cela. Mais maintenant, je connais comme, effectivement, comme celui qui pourvoit. C'est-à-dire, maintenant, ils vont entrer dans l'expérience de ce Dieu de l'Alliance qui répond, en fait, à toutes ces promesses qu'il avait faites. Vous vous rappelez, il a fait plein de promesses à Abraham, mais Abraham est mort sans les avoir accomplies. Isaac aussi, Jacob aussi, Jacob même il meurt en Égypte. Mais eux, ils vont connaître Yahvé comme celui qui accomplit ses promesses, qui tient sa parole. Et c'est pour ça, si vous avez le second 21, vous avez cette traduction, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom l'Éternel. Alors, on a ces deux explications possibles, mais ce verset ne doit pas vous causer, j'espère, de problèmes. Alors revenons donc maintenant à notre texte en Exode 3. Moïse va pouvoir dire au peuple, Yahvé, vous connaissez Yahvé, l'Éternel, vous connaissez l'Éternel. Ça, c'est son nom de génération en génération. Et en fait, il est le Dieu créateur. Et j'avais ici plein de textes que j'allais vous lire. Mais en Genèse 2, nous avons à répétition plus de 10 fois cette phrase « l'éternel Dieu », c'est-à-dire « Yahvé Dieu ». L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, etc. Et puis au chapitre 3 encore, « Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu, Yahvé Dieu, qui parcourait le jardin ». L'éternel Dieu, Yahvé Elohim, c'est son nom. Et c'est encore par ce même nom que nous aussi aujourd'hui, nous le connaissons. Il est encore, vous voyez, il est encore aujourd'hui ce qu'il a toujours été. Et c'est là que je veux que vous regardiez maintenant le verset 12 de chapitre 3. Parce que nous allons trouver exactement le même verbe, Yahvé, mais traduit différemment. Est-ce que vous pouvez le trouver? Et je trouve que c'est remarquable. Verset 12, qu'est-ce que Dieu dit? C'est la première phrase qui sort de sa bouche ici au verset 12, c'est quoi? Je serai. C'est le même mot pour Yahvé. Les quatre mêmes consonnes. Écrit dans le manuscrit. Je serai avec toi. Donc vous voyez, c'est pas seulement le Dieu qui est. Et en fait, on peut le traduire selon le contexte, hein, ce mot exact, on peut aussi le traduire dans le passé. Donc, il est le Dieu qui, il est j'étais et je serai. C'est le même verbe. Vous pouvez l'entourer aussi, hein, sous la même forme et traduit dans le futur à cause du contexte, là, du verset 12. Et parfois, comme j'ai dit, ça se traduit même dans le temps passé. Et c'est pourquoi on peut dire, je serai toujours ce que j'ai toujours été. Et en fait, c'est comme ça que certains traduisent ce mot Yahvé. C'est le verbe être, mais pas juste aujourd'hui. Et certainement pas simplement hier, mais ça englobe toute l'éternité. En fait, je serai toujours ce que j'ai toujours été. Et c'est pour ça que j'aime bien la traduction éternel. Éternel. Chaque fois que nous venons à ce mot dans nos Bibles françaises, nous avons ce rappel qu'il est le Dieu éternel, c'est-à-dire le Dieu qui sera toujours ce qu'il a toujours été. Et donc le sens est simplement ceci, c'était notre thème la semaine dernière, l'inaltérabilité totale de Dieu, son caractère immuable dans toutes les générations. Et ce n'est pas simplement, s'il vous plaît, comprenez cela, ce n'est pas simplement qu'il a le même nom dans chaque génération. Moi, j'ai le même nom depuis ma naissance. Quand j'étais petit, on m'appelait Timmy. Hein? Mais j'ai le même nom. Mais je vous assure que moi, j'ai changé. Je change tous les jours, en fait. Donc, c'est pas seulement que Dieu a le même nom dans toutes les générations, mais c'est un nom qui parle de son être. De son être. Il est exactement le même être. Il a exactement la même existence. Dans chaque génération. Que dit Jacques 1:17? Il est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni même ombre de variation. Il est constamment le je suis de chaque génération. Et donc, quand vous lisez votre Bible, vous savez qu'en 2023, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et c'est aussi le même Dieu de Timothée. Quel réconfort. Mais encore une chose qui est très très beau. On va terminer avec ça. Je vous invite à trouver en Jean chapitre 8. C'est époustouflant parce que dans ce texte, Jésus va s'approprier ce même nom. En Jean 8, je commence au verset 48, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Je vous assure, c'est un terme très raciste, très dénigrant pour un Juif de dire, de l'appliquer à Jésus. Et il s'arrête pas là, tu es un démon. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Et vous, m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui cherche la gloire et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Verset 52, maintenant les Juifs lui dirent, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Et les prophètes aussi sont morts? Qui prétends-tu être? Écoutez, si vous avez un doute sur ce que Jésus pensait de lui-même, lisez bien ce qui suit. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, c'est-à-dire si moi j'inventais tout ça moi-même, eh bien ma gloire n'est rien. Mais c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Donc il dit, votre Dieu c'est mon Père, et lui me glorifie. Et vous ne le connaissez pas, mais pour moi, moi je le connais. Et si je disais en fait que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Il dit, je le connais, enfin je pourrais pas dire autrement. Mais je le connais, et je garde sa parole. On comprend pourquoi les Juifs étaient irrités contre lui. Mais ça va plus loin, notez le verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu, c'est-à-dire, il a vu mon jour. Et il s'est réjoui de voir mon jour. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, même avant qu'Abraham fût. Pourquoi fût? Parce que Abraham ne peut pas dire qu'Abraham qu'il est, Il a eu une naissance, Abraham. Et même avant sa naissance, je suis. Mes amis, il n'y a pas de doute ce que Jésus est en train de faire. Il est en train de s'approprier le nom sacré de Dieu. Le nom devant qui Moïse a enlevé ses sandales parce qu'il était sur une terre sainte. Celui dont il avait tellement peur de voir le visage, il s'est couvert lui-même son propre visage. Et on comprend pourquoi, regardez ce qu'ils font, verset 59. On comprend pourquoi ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a, en entendant ça, il n'y a que deux choix. Soit tomber à genoux pour l'adorer, soit prendre des pierres pour le lapider. Il n'y a pas de troisième option ici. Il est en train de dire, moi je suis. Et j'étais le je suis avant même qu'Abraham fût. Ils sont en train de lui dire, mais tu t'identifies donc comme l'Éternel, le Dieu de la création. Nous avons lu ces passages en Genèse chapitre 2, l'Éternel Dieu. Tu dis que c'est toi qui as fait alliance avec Abraham et qui t'a connu. Tu te présentes comme celui qui a pourvu l'agneau pour prendre la place d'Isaac? Tu prétends être le Yahvé qui a délivré le peuple d'Égypte? Et Jésus dit sans équivoque, en vérité, c'est souligné cette chose. C'est réfléchi, c'est exprès, c'est délibéré. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, Je suis. Cela devrait nous faire gémir dans nos esprits. Nous devons répondre comme les disciples après que Jésus a calmé la mer. Il dit en Luc 8, 25 qu'ils étaient saisis de crainte et d'étonnement et se disaient les uns aux autres, qui donc est cet homme? Qui est cet homme? Et un dernier verset en Apocalypse chapitre 4. Jean ici, c'est le dernier livre de notre Bible. Et il écrit, il dit, « Jean, cette église qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui, quoi, qui est. » C'est le verbe être. Et il va le mettre dans le passé. Qui était, et puis il va maintenant le projeter dans l'avenir, et qui vient. Vous voyez, il n'y a pas de changement dans notre Dieu. Jésus peut dire, je serai toujours ce que j'ai toujours été. Et Hébreux 13, verset 8, nous dit que Jésus Christ lui-même est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Infini, éternel et immuable. Le seul Dieu, Yahvé. Jésus est l'Éternel. Est-ce que nous pouvons prier? Si vous pouvez juste baisser la tête et fermer les yeux, et j'aimerais vous parler personnellement, si je pouvais le faire. Vous êtes face à Jésus-Christ aujourd'hui. Quelle est votre opinion de lui? Est-ce que vous pouvez lui dire, comme Thomas lui a dit, mon Seigneur et mon Dieu? Est-ce que vous pouvez lui dire qu'il est Yahvé? Il est l'Éternel. Nous savons que ce Dieu unique, il a un nom. Et l'apothéose de ce nom est révélée à la fin de Matthieu quand il parle du nom singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous connaissons Yahvé seulement quand nous le connaissons en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Égal en puissance, égal en gloire. Tous les trois, éternels, immuables, sans changement ni variation, le Dieu des dieux. Ô notre Père, le grand il est, éternel, nous te louons de ce que tu t'es révélé à l'homme. Et nous savons que l'homme est par nature aveugle à cause du péché. Mais nous savons aussi que ton esprit est efficace pour appeler même ceux qui sont dans les ténèbres, pour les transporter dans le royaume de ta lumière. Et nous prions que pour chacun de nous ici, nous soyons clairs sur qui est le Dieu réel, le Dieu de la création et le Dieu de l'Apocalypse, le Dieu de l'éternité, le Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous voulons t'adorer et te louer et t'aimer, pas tel que tu es selon notre imagination, mais tel que tu es selon ta propre révélation. Amen.